Il est 12h31, pardon pour cette minute de retard, Antoine Mercier. C'est à vous pour les informations.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Peut-être un déblocage du conflit sur le projet de loi travail. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Bruno Le Roux, évoque ce matin une évolution sur l'inversion des normes, qui est le principal point de blocage avec les syndicats. Explication dans un petit instant avec Annabelle Grolier. Analyse de Frédéric Saïs à la sortie du Conseil des ministres. Peu avant, la CGT avait encore accentué la pression, propageant la contestation des raffineries aux réacteurs nucléaires et au trafic SNCF qui est touché aujourd'hui. La France a commencé à puiser dans ses réserves stratégiques de produits pétroliers, c'est ce qu'indiquait le président de l'Union française des industries pétrolières. Mais à l'instant, le gouvernement confirme ce recours aux stocks stratégiques. 3 jours utilisés, affirme à l'instant le porte-parole du gouvernement. 3 jours sur 115, donc, de réserve. Les ministres des Finances de la zone euro débloquent 10 milliards d'euros de fonds nécessaires destinés à la Grèce et se mettent d'accord aussi sur le principe d'un allègement de la dette, mais seulement pour 2018, commentaire de Marie Viennot. Au lendemain du lancement d'une opération sur la ville irakienne de Fallujah, une coalition kurdo-arabe lance des opérations pour contrôler la campagne nord au nord de Raqqa, la capitale de l'État islamique en Syrie. Analyse Eric Biegala. Donald Trump, plus très loin de la majorité de délégués requises pour l'investiture présidentielle. Il remporte la primaire républicaine de l'État de Washington, suivi de ce scrutin et de cette campagne avec Nadine Epstein. Et puis accord conclu en Israël pour le retour au gouvernement d'Avigdor Lieberman au poste de ministre de la Défense. Une vraie menace pour la stabilité régionale, estime ce matin l'OLP. Invité de la séquence interview, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI. Et dans la dernière partie, Caroline.
Écoutez, nous allons méditer cette phrase de Mussolini. Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Non, plus sérieusement, nous allons nous demander si pour vivre heureux, il faut vivre intensément. Et l'occasion nous en est donnée par le livre de l'écrivain philosophe Tristan Garcia, La vie intense, une obsession moderne.
Les socialistes donc proposent de réécrire la loi travail. Le président du groupe à l'Assemblée, Bruno Le Roux, vient de faire en effet des propositions, notamment sur cette fameuse articulation entre accord de branche et accord d'entreprise prévu dans l'article 2 du projet de loi travail et qui est le principal point de blocage avec les syndicats hostiles au texte. Alors que la CGT parlait ce matin d'accentuer encore la pression, alors qu'elle tentait de propager des raffineries aux réacteurs nucléaires notamment et au trafic SNCF, le mouvement, cette proposition intervient donc pour l'instant du côté du groupe socialiste à l'Assemblée. Annabelle Grolier, est-ce qu'elle est de nature à apaiser le conflit et peut-être à sortir du blocage?
D'abord, qu'est-ce que propose le président du groupe PS à l'Assemblée, Bruno Le Roux, sur ce fameux article 2? Il propose de rendre prééminent l'avis de la branche dans le cas où l'accord d'entreprise dérogerait à ce qu'elle avait fixé. Quand on lui demande si cet avis pourrait être contraignant, Bruno Le Roux répond qu'il ne sait pas et se lance dans une grande explication, je vous la livre. Quand cet avis est a priori, les syndicats qui sont dans la branche peuvent décider de conserver ou de ne pas conserver le mandatement aux salariés qui ont passé cet accord. Or, il ne peut pas y avoir d'accord sans salariés mandatés. Donc je ne vous fais pas un dessin, il y a une véritable possibilité d'empêcher toute dérive avec cette écriture. Alors ce n'est pas d'une grande clarté, je vous l'accorde Antoine. Pourtant, il faut y comprendre un recul du gouvernement qui annulerait l'inversion de la hiérarchie des normes sans vraiment à cette heure-là à le dire. Sur les heures supplémentaires avec les routiers le week-end dernier, c'était déjà le chemin qui a été emprunté. Il n'y a pas possibilité de déroger à l'accord de branche, a confirmé Bruno Le Roux. Ces questions doivent être discutées avec les syndicats qui sont engagés sur le texte, je pense notamment à la CFDT, l'UNSA, et avec les syndicats qui pour l'instant ne soutiennent pas le texte, je pense notamment à Force Ouvrière et la CGT, a-t-il ajouté. Alors, ces propositions sont-elles de nature à apaiser le conflit? Eh bien, pour le moment, aucun des syndicats contestataires ne s'est exprimé. Rappelons quand même que la CGT et Force Ouvrière, depuis le début du conflit, ne veulent pas des aménagements ni des modifications du texte, mais un retrait total de cette loi.
Merci beaucoup Annabelle Grolier. On va prendre la tonalité maintenant du côté de l'Élysée à l'issue du Conseil des ministres. Il faut rappeler que les forces de l'ordre avaient débloqué encore ce matin le dépôt de carburant de Douchy-les-Mines dans le Nord, dont l'accès était occupé depuis la semaine dernière par les syndicalistes. Le gouvernement, jusqu'à présent, affichait sa fermeté. Frédéric Saïs, est-ce qu'il y a un changement de ton ce matin à l'issue du Conseil ?
Non, pas vraiment. On voit que l'exécutif est avant tout entagé dans la bataille de l'opinion, bien décidé à détourner le mécontentement vers les syndicats et en particulier vers la CGT. Les éléments de langage sont désormais bien définis. Le blocage des raffineries serait l'œuvre d'une minorité non représentative. Cela ne sert à rien, si ce n'est à affaiblir l'économie française. Dans le même temps, le gouvernement essaye de décourager ces blocages en laissant entendre que de toute façon, on est bien loin de la panne sèche. À la sortie du Conseil des ministres il y a quelques instants, c'est ce qu'a dit Alain Vidalis, le secrétaire d'État aux transports. Les stocks stratégiques représentent 115 jours de consommation, dit-il, et seul l'équivalent de 3 jours ont été jusqu'ici utilisés. Tout sera mis en œuvre pour approvisionner les Français. C'est ce qu'a dit également au Conseil des ministres François Hollande, selon les propos rapportés par le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, qui indique aussi que 11 dépôts ont été libérés. Il ajoute « On fera appliquer la règle ». Voilà donc la position du gouvernement autour de ces blocages, en diaboliser les acteurs et en atténuer les conséquences. Alors malgré tout, le gouvernement tente de ne pas accentuer la crise davantage. Il compte en fait sur l'essoufflement. Ce matin, le ministre des Transports a d'ailleurs exclu pour l'instant toute réquisition de personnel dans les raffineries. C'est ce qu'avait fait le gouvernement Fillon en 2010 lors de la contestation sur la réforme des retraites. Le mouvement, ils le savent, au gouvernement peut encore durer longtemps. D'après nos informations, la loi travail ne devrait revenir en deuxième lecture à l'Assemblée nationale que le 17 juin. Et oui, même avec un 49-3, il faut repasser devant l'Assemblée en deuxième lecture. Entre-temps, il y aura eu le début de l'Euro de football et le début de la grève illimitée demandée par la CGT, notamment dans les ports et dans les transports parisiens.
Merci beaucoup, Frédéric Saïs. À l'Élysée, Jean-Christophe Lagarde, bonjour.
Bonjour.
Président de l'UDI. Alors bon, on a besoin de vos lumières pour nous expliquer ce qui se passe. Apparemment, c'est peut-être pas contradictoire. D'une part, le président du groupe socialiste qui dit on peut faire évoluer le texte sur le point le plus sensible. D'autre part, le gouvernement qui maintient une position de fermeté. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose se débloque, que le gouvernement recule un peu ?
Le gouvernement ne tiendra pas et ne peut pas tenir. Ce texte est rejeté par la majorité de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce qu'une motion de censure n'a pas été adoptée qu'il n'y a pas aujourd'hui une majorité des députés qui sont contre ce texte. Par une très large majorité des Français, même si beaucoup, je l'en conviens, ne l'ont pas lu, par des groupes syndicaux puissants, la CGT, premier syndicat de France, quand bien même...
Et par vous aussi.
La technique, oui, bien sûr, par nous. Mais je vais y revenir. Le gouvernement ne tiendra pas. Et il est en train d'habiller le recul. Alors c'était le recul, vous l'avez expliqué tout à l'heure, sur les heures supplémentaires. C'est maintenant le recul sur, on dit l'inversion des normes. C'est d'ailleurs un bien grand mot. Parce
vous avez compris cette histoire d'a priori et a posteriori?
Oui, bien sûr.
Bon, ça veut dire quoi?
C'est simplement un enfumage parce que déjà aujourd'hui, l'inversion des normes, elle n'existe pas. Il faut des conditions tellement difficiles à réunir qu'il y a peu de chances qu'il y ait des accords d'entreprise qui se fassent en dehors des accords de branche. Mais en plus, alors cette fois-ci, si la branche doit donner son accord, pourquoi voulez-vous qu'une branche soit d'accord pour qu'il y ait un accord d'entreprise? Tout ça n'a pas de sens. Le gouvernement perd du temps pour habiller sa reculade. Nous avions dit, nous, le 3 mai, que vu la façon dont ils engageaient ce texte de loi, dont je rappelle que l'objectif initial n'était pas le dialogue social ou le problème des branches, c'était de sécuriser le parcours pour l'employeur comme pour l'employé du contrat d'embauche. Qu'on sache comment ça commençait, comment ça se termine. Ils ont reculé là-dessus tout de suite à la première pancarte de manifestants. Ils ont ensuite effectivement essayé de voir comment torturer les accords de branche. Ils sont en train de reculer sur ce sujet. Et au passage, on a créé une agitation, des débordements qui, depuis des semaines, nous valent des casseurs, des agressions sur les policiers, maintenant des blocages de raffineries, on a eu droit au blocage routier, on nous menace de nous couper l'électricité, comme vous le disiez tout à l'heure, pour les centrales nucléaires. Bref, il faudrait qu'un jour, à un moment ou à un autre, quelqu'un dise au président de la République que ça ne va pas mieux, ça va même de mal en pis. C'est pas la peine, pour des questions de façade politique, de faire semblant. Le gouvernement va abandonner ce texte,
quand,
peu ou prou.
Dans quelle manière ?
Eh bien, il faudrait bien qu'il le fasse, s'il a l'intention d'abandonner, qu'il le fasse rapidement. L'habillage politique, ce sont les Français qui en payent le prix. Je suis effaré depuis plusieurs jours, et j'entendais ça encore à la sortie du Conseil des ministres, d'entendre le ministre des Transports nous expliquer qu'il n'y a pas de pénurie, alors qu'un tiers des stations sont aujourd'hui vides et qu'à chaque fois qu'on passe devant une station-service, on voit des embouteillages parce qu'il y a des
100 jours de réserve. C'est ça qu'il a dit aussi.
Oui, ça sans doute dans les stocks, mais pas dans un certain nombre de régions. Et pardon, c'est indécent de dire ça. Vis-à-vis de gens qui sont en Bretagne, vis-à-vis de gens qui sont en Normandie, qui sont dans les Pays de Loire, qui sont en Nord-Pas-de-Calais, ces gens-là ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Ils n'ont pas le métro, eux. Hein, ils ont besoin d'aller bosser. Et leur dire qu'il n'y a pas de pénurie, quand ils passent des heures devant des stations-service, et quand on voit même en Ile-de-France les embouteillages que crée la moindre station-service, il faut qu'à un moment donné, le gouvernement, et surtout le président de la République, retombe sur terre et prenne la mesure de la situation. Ce n'est pas la peine de traîner, si c'est pour reculer, qu'il le fasse tout de suite.
Alors, on reviendra avec vous à la fin de ce journal sur votre position politique, parce que vous avez dit hier que votre groupe, eh ben, vous êtes prêt à voter une éventuelle motion de censure déposée par la gauche de la gauche lors du retour du texte à l'Assemblée nationale. Vous êtes toujours sur cette position, vous nous expliquerez pourquoi.
Je pense qu'il faut à un moment donné qu'on arrête une situation politique, sociale et économique qui se délite. Si le moyen c'est de voter une motion de censure pour que le président de la République ou nomme un nouveau gouvernement ou renvoie les parlementaires devant les Français, la France ne peut pas vivre un an sans être gouvernée. L'Europe est en train de redémarrer, nous sommes les seuls à rester en panne. C'est ça, en réalité, qui doit nous préoccuper.
Y aura-t-il une dissolution dans l'été ? Question, réponse tout à l'heure, dans quelques instants. Merci Jean-Christophe Lagarde.
L'Europe est en train de redémarrer, dites-vous Jean-Christophe Lagarde. Le gouvernement grec, en tout cas, se félicite de l'accord conclu dans la nuit par ses créanciers pour reprendre le versement de prêts au pays et alléger sa dette, comme si on pouvait se demander si la situation économique et financière était en train de s'améliorer, en effet.
Il y a des pourparlers qui se sont achevés tôt ce matin. Les ministres des Finances de la zone euro qui donnent donc leur aval au déblocage de 10 milliards d'euros de nouveaux fonds qui sont destinés à la Grèce et qui promettent un accord, disons, sur le principe pour l'instant d'un allègement de cette dette en 2018. Le gouvernement de Tsipras, qui avait fait d'un arrangement sur la dette la condition de sa soumission aux exigences de réforme des bailleurs de fonds du pays, se déclare donc satisfait. L'accord conclu cette nuit est-il le signe ou pas que la Grèce peut quand même envisager maintenant une amélioration concrète de sa situation, Marie Viennot?
Ce qui aurait vraiment aidé la Grèce, c'est que ses créanciers décident dès maintenant d'alléger sa dette et même d'en supprimer une partie. Ainsi, les remboursements que fait l'État grec à ses créanciers auraient été réduits, ce qui aurait donné immédiatement de l'air au budget grec et permis des mesures de relance. Mais ce n'est pas ce qui a été acté la nuit dernière. Il n'est pas question d'annuler une partie de la dette grecque. En revanche, un allègement sera envisagé si la situation se dégrade. Or, pour le FMI, il n'y a pas de doute, elle va se dégrader. Christine Lagarde l'a dit à plusieurs reprises, jamais la Grèce n'atteindra les objectifs fixés l'été dernier. Et pourtant, ces objectifs irréalistes pour le FMI, on les retrouve consignés noir sur blanc dans l'accord de la nuit dernière. L'État grec est toujours censé dégager un excédent budgétaire égal à 3,5% de son PIB hors paiement de ses charges d'intérêt. Or, en 2015, la Grèce est arrivée à dégager un tout petit excédent de ce type, 0,25%. Pour atteindre les 3,5%, il faudrait que sa croissance soit la plus forte de la zone euro ces prochaines années. Or, pour le moment, la croissance est à tonne en Grèce et les derniers indicateurs de production industrielle ne laissent pas augurer une reprise vigoureuse avant un temps indéterminé. Cela dit, le fait que l'allègement de la dette grecque ne soit plus d'emblée exclu des discussions peut avoir un effet psychologique sur les investisseurs privés. Redonner confiance en la Grèce, c'est cet effet qu'espère le ministre des Finances grec en parlant cette nuit d'un nouveau départ.
La Commission européenne propose de bannir à partir de l'an prochain le géoblocage dans l'Union européenne. Géoblocage, c'est une pratique consistant pour les vendeurs en ligne à traiter différemment les consommateurs en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. La législation proposée interdit donc ce type de blocage qui entrave les achats transfrontaliers, les discriminations des internautes. Elle couvre la vente de tous les produits, certains services électroniques comme le stockage de données, de services consommés localement aussi, tickets de concert ou location de voitures.
C'est une double offensive qui est actuellement lancée contre les chefs de l'État islamique en Irak et en Syrie, avec l'appui de la coalition internationale conduite par les États-Unis.
Au lendemain du lancement d'une opération sur la ville irakienne de Fallujah, on en parlait hier, la province de Raqqa, où se trouve la capitale de l'État islamique pour la Syrie, a été elle aussi prise pour cible hier. Ce sont des troupes fédérales en Irak, une coalition kurdo-arabe qui s'appelle Force démocratique syrienne, qui ont donc lancé ces opérations. Ils veulent contrôler notamment la campagne qui est au nord de cette ville de Raqqa et pouvoir mettre la pression sur la ville elle-même avant éventuellement une offensive plus large. Dans les deux cas, il faut bien le dire, Éric Bégala, les Américains participent directement aux opérations, notamment par des bombardements. Est-ce que ces deux offensives sont coordonnées et
pour quelle stratégie ?
Alors, la concomitance de ces deux offensives n'est peut-être qu'un hasard, mais c'est un hasard qui, en tout cas, fait assez bien les choses. En Irak, le lancement de cette opération, très importante pour reprendre Fallujah, dernier bastion de l'État islamique dans le centre du pays, à une cinquantaine de kilomètres de Bagdad, était dans les tuyaux depuis des mois. Les forces irakiennes avaient patiemment encerclé l'agglomération, puis se sont décidées à passer à l'action ce week-end. Il y a peut-être dans ce timing une mesure d'opportunisme de la part du chef du gouvernement irakien, Haïdar al-Abadi, empêtré dans des blocages institutionnels de sa majorité, incapable de mettre en place un nouveau gouvernement. Apparaître en chef de guerre, lançant l'assaut sur Fallujah, lui permet de redorer son blason et surtout de sonner le tocsin de l'unité nationale contre Daesh. En Syrie, sur Raqqa, cela faisait également des mois qu'une offensive était en préparation, que les Kurdes de l'YPG, épaulés par les brigades arabes et rebaptisés à l'automne Force Syrienne Démocratique, préparaient également une offensive, même si celle qui est en cours ne semble pas destinée à prendre la ville, mais plutôt à serrer au plus près la capitale autoproclamée de l'État islamique. Dans les deux cas, les forces spéciales américaines ont été largement à la manœuvre. En Syrie d'abord, où l'on compte maintenant 300 hommes des forces spéciales qui guident les avions depuis le sol, qui entraînent les combattants kurdes et arabes ou qui les appuient directement au feu. En Irak, à Fallujah, les avions de la coalition sont là, eux aussi, et on peut imaginer que les appuis aériens rapprochés, c'est-à-dire directement au profit des unités irakiennes qui progressent dans les faubourgs de Fallujah, doivent être également coordonnés par ce que les spécialistes appellent des contrôleurs aériens tactiques, c'est-à-dire c'est un rôle en fait que les forces spéciales américaines savent parfaitement remplir. Des forces spéciales qui ont également entraîné, et pendant des mois, les unités irakiennes d'élite, comme la division dorée, qui sont aujourd'hui le fer de lance de l'opération sur Fallujah. Vous le voyez Antoine, les deux opérations sont non seulement concomitantes, mais préparées et menées avec les mêmes logiques, et sans doute encadrées par des hommes issus exactement des mêmes unités américaines.
Eric Biegala, merci.
France Culture 12h46, suite du journal. Aux États-Unis, Donald Trump n'est plus très loin de la majorité de délégués requise pour l'investiture présidentielle. Il a remporté hier la primaire républicaine de l'État de Washington.
Oui, selon une estimation de CNN, Trump va atteindre le 7 juin, donc quand la Californie et quatre autres États vont voter, la fameuse barre de 1237 représentant qui est requis pour l'investiture automatique. En attendant, Trump multiplie les attaques personnelles contre Hillary Clinton avec l'objectif toujours le même de monopoliser l'attention des médias. Il utilise en fait la même stratégie que celle qu'il avait déployée avec succès d'ailleurs contre ses rivaux républicains, Nadine Epstein.
Et la technique de Trump est celle du démagogue, à savoir dire des demi-vérités, des mensonges francs et brouiller les cartes avec plus ou moins de finesse et d'aplomb pour capter et duper les électeurs et le candidat républicain, de multiplier à l'envi les déclarations et son parler vrai pour faire les gros titres des médias et occuper des espaces télévisés. Dernier tir lancé par le milliardaire contre Hillary Clinton, un montage d'une vieille photo de Bill Clinton fumant un gros cigare avec une bande-son de voix de femme et d'un rire bruyant supposé de la candidate démocrate et le slogan de cette vidéo, est-ce qu'Hillary protège vraiment les femmes ? En ressortant le libertinage de l'ancien président et en insinuant que sa femme était complice, Trump persiste a véhiculé l'idée que Hillary Clinton est une femme corrompue et indigne de confiance, pour preuve et pêle-mêle l'histoire de sa messagerie, les attentats de Benghazi et le passé adultère de son mari. Jouer sur la fibre féminine des électrices, mais surtout pousser son adversaire à être sur la défensive et à devoir répondre à ses provocations, c'est ce que cherche Trump. Ainsi, après cette vidéo, l'équipe de l'ex-secrétaire d'État s'est sentie obligée de qualifier ses accusations d'infondées et d'orientées. Et une experte américaine d'estimer que Clinton passe moins de temps à faire campagne pour l'avenir et plus de temps qu'elle ne le souhaiterait à expliquer le passé. Dernière flèche lancée par l'équipe de campagne de la candidate démocrate contre Trump, un spot qui l'accuse d'avoir souhaité l'éclatement de la bulle immobilière et de s'être réjoui de la crise des surprises en 2008. L'espoir de l'ex-secrétaire d'État est de réduire l'attrait exercé par le candidat républicain auprès de l'électorat ouvrier.
Nadine Epstein. Un accord conclu en Israël, on l'attendait pour le retour au gouvernement d'Avigdor Lieberman, le chef de file du mouvement nationaliste Israël Beteinu, au poste donc de ministre de la Défense. Cela permet au Premier ministre d'élargir sa majorité parlementaire. L'accord conclu porte à 67 sièges sur 120 cette majorité. Le nouveau ministre promet ce matin de mener une politique responsable et équilibrée au ministère de la Défense. Étienne Monin.
Avigdor Lieberman est un chiffon rouge qui a la réputation d'être plus opportuniste qu'idéologue.
Avigdor Lieberman...
Freddy est un ancien journaliste directeur du Centre des Affaires Publiques et de l'État.
A des idées intransigeantes concernant la solution du problème palestinien, mais c'est un pragmatique.
Avigdor Lieberman est un ancien du Likoud. Il a été ministre des Affaires étrangères sous Benjamin Netanyahou. Au ministère de la Défense, il aura notamment à gérer les tensions et les territoires occupés dans un moment fragile, estime le politologue Denis Charbit.
Mettre maintenant Lieberman, ça apparaît comme un acte suicidaire pour les intérêts même de l'État d'Israël.
Cette nomination révèle aussi une fracture et un glissement dans la ligne du Likoud, le parti du Premier ministre, estime Emmanuel Navon, professeur de relations internationales.
Il y a là un réveil au sein d'une grande partie de la droite israélienne qui se sent aujourd'hui complètement mise à l'écart par, je dirais, la branche plus nationale religieuse qui, avec le temps, a également pris le contrôle du Likoud.
Pour répondre aux inquiétudes, Benjamin Netanyahou dit que sa coalition continuera à faire tout son possible pour le processus diplomatique bloqué depuis maintenant 2 ans, depuis le désengagement de la diplomatie américaine.
La séquence interview, Antoine, avec votre invité Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI.
Et oui, au président de l'UDI, avec qui on parlait d'une perspective assez curieuse en politique tout à l'heure au début de ce journal, c'est-à-dire peut-être le vote d'une motion de censure qui serait déposée par la gauche de la gauche à l'occasion d'un futur 49-3 toujours sur cette loi de travail et qui pourrait être votée par l'opposition, notamment l'UDI, en tout cas vous êtes pour, peut-être aussi par les Républicains parce que M. Ciotti a pris la même position et tout d'un coup, patatras, le gouvernement pourrait tomber, il pourrait y avoir des élections législatives pendant l'été ou à la rentrée. Est-ce que ça vous paraît un scénario qui a une chance d'aboutir, de se réaliser?
C'est un scénario qui est devenu possible. Je vous rappelle que 56 députés de ce qu'on pouvait appeler la majorité ont souhaité renverser le gouvernement parce qu'une motion de censure, ce n'est pas un programme de gouvernement. C'est le fait de s'opposer à un texte de loi et pour ce faire de renverser un gouvernement. Ils ont fait basculer la majorité à l'Assemblée nationale puisqu'il y a aujourd'hui plus de députés qui souhaitent rejeter ce texte, qui souhaitent aussi la fin du gouvernement, que de députés qui souhaitent sa survie. C'est rare dans la 5e République qu'un gouvernement se retrouve minoritaire. Alors, il leur a manqué deux signatures.
Ils vont les avoir, admettons qu'ils
les
aient.
Je ne suis pas sûr. Bon. Mais on verra. Il leur a manqué deux signatures. Si ils avaient eu ces deux signatures, le gouvernement serait déjà tombé.
Pas forcément. Il faut ensuite que la motion de censure soit votée en elle-même. C'est pas parce qu'on la dépose qu'ensuite elle est votée.
Je pense, en tout cas pour les parlementaires UDI, je crois que c'est le cas des parlementaires républicains, que nous ne saurions pas payer le ridicule de ces députés dits frondeurs qui signent une motion de censure, pardon, pour renverser le gouvernement, mais qui ne votent pas celle qui est à leur disposition, alors même que les communistes l'ont fait. Là encore, évidemment qu'il n'y a pas de confusion politique, nous n'avons pas les mêmes préoccupations, pas les mêmes programmes. Mais vous savez, dans le délitement général de la situation économique, sociale et politique française, il faut à un moment donné que ça s'arrête. Le chef de l'État devrait avoir l'initiative, la maîtrise des choses. C'est lui le responsable. De changer de gouvernement, d'arrêter les frais, d'avoir réussi l'exploit de lever et de bloquer la France pour un projet de loi quasi vide. Qu'est-ce qu'il est en train de payer en vérité? Il est en train de payer à la fois les mensonges de la campagne présidentielle, l'exaspération des Français et l'éclatement de deux gauches.
Qui sont jusqu'à présent à droite peut-être aussi. Vers les positions qui sont les vôtres.
L'éclatement de deux gauches. La gauche dite de gouvernement incarné par alors Monsieur Valls, Monsieur Macron, qui vous voulez, des gens qui d'ailleurs pensent déjà à l'après Hollande, et puis d'une gauche qui est plutôt celle de Montebourg, de Hamon, de Mélenchon, qui en réalité, une fois confrontée à l'épreuve du pouvoir, préfère la contestation qu'autre chose. Mais c'est la construction de cette majorité qui a explosé. Et si je pense qu'il faut mettre un coup d'arrêt, que moi, en tout cas je suis prêt à participer à ce coup d'arrêt, c'est parce que je ne crois pas que la France puisse être gouvernée dans un tel climat, dans un tel immobilisme pendant un an, alors que comme je le disais, l'économie européenne, les économies de nos voisins, y compris de ceux qui ont été plus touchés par la crise que nous, je pense à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, redémarrent, recréent des emplois, et qu'il n'y a qu'en France qu'on reste en panne. Hier, nous apprenions dans un rapport qui a été fait par Ernst & Young, un cabinet d'audit, que la France décrochait en attractivité pour attirer les investissements étrangers par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Grande-Bretagne. C'est catastrophique. Au contraire, les investissements sur notre continent sont en train d'augmenter fortement, près de 80%. La France est le seul pays qui recule. Il faut à un moment donné que ce délitement s'arrête.
Est-ce que l'UDI va pouvoir défendre tout ça dans la campagne puisque vous êtes absent de la primaire à droite? Vous n'êtes évidemment pas dans la concurrence à gauche et on vous entend pas tellement parler finalement en tant que potentialité ou en tant que candidature,
mais
personnalité.
Rassurez-vous, nous préparons notre projet à la fois présidentiel et législatif et vous en entendrez parler. Mais
vous attendez la fin de la primaire à droite? Ça risque d'être un peu tardif, non?
Pour faire un projet, on n'attend pas, on est en train de le faire. On a d'ailleurs ce week-end un bureau politique qui
va traiter de la droite et des républicains.
Un bureau politique qui va traiter. Vous savez, si en réalité les seules questions qui nous sont posées. Ce n'est pas vous, mais vous dites, vous ne vous faites pas entendre. C'est de commenter ce que font les socialistes ou de commenter ce que font les républicains. Forcément, vous ne nous entendrez pas. Ce week-end, nous allons à la fois poser ce que notre stratégie pour que l'Europe sorte de sa situation. L'Europe aussi est en train de s'effondrer. Elle cède au chantage de la Turquie. Il n'y a plus aucune impulsion. Plus de voix de la France non plus, d'ailleurs, à l'occasion. Au moment où, en Autriche, on a failli avoir un chef d'État d'extrême droite élu par le peuple la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. On se retrouve dans une situation où nous aurions besoin d'une impulsion nouvelle, comme quand l'Europe dans les années 80 avait une difficulté et où Jacques Delors a à la fois dessiné la perspective du marché unique, de la monnaie unique. On a besoin aujourd'hui d'avoir un gouvernement économique fédéral. On a besoin aujourd'hui de mettre ensemble nos stratégies industrielles, commerciales au sein de la zone euro, d'avoir une stratégie d'immigration commune, d'avoir une stratégie de protection de nos frontières communes. C'est ce qui manque aujourd'hui, c'est l'impulsion dans la vie politique française et dans la vie politique européenne. Et donc, pardon, vous aurez, rassurez-vous, des nouvelles de l'UDI sur nos projets, etc. Simplement, d'abord et avant tout, c'est la question que vous me posiez, on a une situation où le gouvernement, l'État, le chef de l'État en particulier est dans le déni. Chez vous hier, il était en train de vouloir devenir Clémenceau ou Churchill. Très franchement, à un moment donné, on se demande si ça va mieux à l'Élysée.
Si ça continue à s'aggraver peut-être. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde d'avoir accepté notre invitation. Un temps marqué par les alternances de passages nuageux, porteurs d'averses, de courtes périodes ensoleillées de la Bretagne au centre-est et sur le sud-ouest. Ailleurs, un temps donc variable, des maximales qui vont de 15 à 26 degrés. Fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h avec Tara Schlegel.